Dans un film de François Truffaut, c'est dans La femme d'à côté pour être précise, Fanny Ardant confie « J'écoute des chansons parce qu'elles disent la vérité ». En préparant cette émission, j'ai pensé que le pouvoir des chansons était encore plus grand. Elles permettent de formuler des choses qu'on doit cacher. Elles permettent de dire une intimité pour laquelle les mots ne sont pas toujours faciles à trouver. Aujourd'hui, je vous propose la réécoute d'un Pop & Co dédié à la question suivante. Comment la chanson française a parlé d'homosexualité et de genre depuis les années 50? En tout cas, il a fallu attendre la décennie 80 pour que l'homosexualité soit chantée frontalement et que les injonctions liées au genre commencent à être contestées. Ça s'est passé à la faveur de mouvements militants et de lois. Le 4 août prochain, ça fera 40 ans pile qu'en France, l'homosexualité n'est plus considérée comme un délit. C'était déjà le cas en Suisse depuis 1942, en Angleterre depuis 1967, en Allemagne depuis 1969. En postface d'un livre intitulé « Les dessous lesbiens de la chanson », la journaliste Hélène Azéra écrit « Le secret a enrichi notre patrimoine. Dès l'instant où on doit se cacher, on dit les choses différemment, on les invente et ça devient de la poésie. » Jusqu'à midi, chanteurs et chanteuses vont donner de la voix, de Charles Trenet à Eddy de Préto, en passant par Juliette Gréco. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
1950. Selon la loi française, l'homosexualité est un délit pénal et c'est un héritage du régime de Vichy. 1950. Branché sur la radiodiffusion française, on écoute l'émission La Tribune de Paris.
Voici la troisième série de nos conseils aux parents pour l'éducation sexuelle des enfants.
Celles et ceux qui vont prodiguer ces conseils sont Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, et Joseph Logre, Logre sans apostrophe, psychiatre. Mais d'abord une question.
L'homosexualité, est-ce qu'il est possible de prononcer ce mot ?
Homosexualité et le mot pédérastie sont des mots qui donnent un caractère beaucoup trop important et beaucoup trop péjoratif à des relations qui sont en quelque sorte des amusements ou plutôt des exutoires, si je puis dire, des choses qui représentent une étape dans la vie sexuelle et qui ne sont pas du tout, comme chez le véritable pédéraste, une vocation qui durera toute la vie. Ce qu'il faut obtenir, c'est justement que le premier ne passe pas au second, n'est-ce pas ? C'est là qu'est le problème. Et en général, d'ailleurs, il n'y a pas de tendance nette.
Madame Dolto.
À propos de l'homosexualité et de la pédérastie, nous remarquons que tous les hommes qui souffrent ou qui ne souffrent pas, mais qui ont cette attitude, sont des hommes qui sont fixés affectivement beaucoup trop étroitement à leur mère. Je répète donc que les mères n'insistent pas pour savoir où en sont leurs fils, non seulement dans leurs pensées, mais dans leur corps, et qu'elles les envoient davantage du côté de leur père et du côté des autres femmes, en conversation générale et en rapports sociaux.
Au fait, cette année-là, 1950, une loi fixe la fête des mères au dernier dimanche de mai. Alors, une bonne fête à toutes les mamans. Bienvenue à la maison de la radio et de la musique, pour trouver le bureau de Didier Varro. Didier Varro est directeur de la musique pour les antennes de Radio France. Il a notamment vécu l'aventure radiophonique de Fréquence Gay et il a participé aux actions militantes pour l'émancipation des homosexuels dès le milieu des années 70.
La situation des homosexuels dans les années 50, elle est tragique. L'homosexualité, selon l'OMS, est classée dans les maladies mentales. Donc l'homosexualité ne peut pas se vivre à ciel ouvert, même s'il y a une communauté artistique homosexuelle très vivace dans les années 30, 40 et 50. Dario Moreno, Jean-Claude Pascal, Charles Trenet sont tous des homosexuels planqués.
Et ça n'empêche pas les chansons à double sens. Comme Le Jardin extraordinaire de Charles Trenet, chanson publiée en 1957.
Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
Si j'explique à mon père, qui est un grand fan de Charles Trenet, qui m'a contaminé dans ma passion pour Charles Trenet, que Le Jardin extraordinaire, finalement, ça n'est autre qu'une description assez joyeuse et assez illuminée de ce qui se passait dans le jardin des Tuileries quand les homosexuels draguaient la nuit.
On y voit
aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin.
Il va me dire, mais non, je ne comprends pas où tu vas en venir. Et en fait, si on voit bien, il y a une lecture qui est une lecture absolument surréaliste, puisque Trainé est quand même issu de ce courant du surréalisme, dont Max Jacob était un de ses inspirateurs. Max Jacob, illustre homosexuel aussi. On y entend effectivement une lecture assez réjouissante de ce qui pouvait se passer dans les jardins des Tuileries ou dans tous les autres jardins, puisque les lieux de rencontre homosexuelle sont des lieux qui s'ouvrent la nuit et ce sont souvent les jardins publics ou les pissotières. Donc voilà.
Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour. Et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire.
Comment dire sans dire quand l'homosexualité est considérée comme un outrage à la pudeur? Comment être compris par les concernés sans s'exposer à la censure? L'une des réponses des chanteurs et des chanteuses, c'est de ne dire ni il ni elle, mais de rester neutre pour parler de la personne sur laquelle on fantasme. Par exemple, dire simplement tu ou toi, comme le grand Dario Moreno en 1959.
L'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclat. C'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois. Car rien pour moi n'est plus que toi. Même quand tu n'es pas là, tu es présent, bien présent.
Et voilà.
Et voilà qui ? Jacqueline Joubert, en direct de Cannes, le 18 mars 1961. Et pourquoi Jacqueline est à Cannes ? Parce qu'elle présente le 6e concours de l'Eurovision. Le gagnant est français, mais il a concouru sous les couleurs du Luxembourg. C'est le comédien et chanteur Jean-Claude Pascal avec Nous les amoureux.
Ce qui est extraordinaire, c'est que moi qui suis un grand fan de l'Eurovision, je n'ai jamais saisi au départ que cette chanson était une chanson qui parlait effectivement de façon très forte et très déterminée de la répression homosexuelle et du fait que les PD vivaient dans le placard et que un beau jour, ils pourraient enfin peut-être espérer des jours meilleurs.
Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille et l'on est deux, les amoureux. Mais l'heure va sonner, des nuits moins difficiles, et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville. C'est promis, c'est écrit. Nous, les amoureux,
c'est une chanson incroyable. En fait, c'est Jean-Claude Pascal hein, qui a fait son coming out. Et maintenant, quand on écoute cette chanson, on y entend effectivement ce qui a été la réalité pour Jean-Claude Pascal. Et c'est aussi émouvant parce que 1961, c'est presque les débuts de l'Eurovision. Et quand on sait qu'aujourd'hui, l'Eurovision est une des manifestations qui réunit la communauté LGBTQ, on se dit que effectivement, y a un vrai sens de l'histoire.
Alors, les sans-amour, les mal-aimés, il faudra bien nous acquitter, vous qui n'avez jamais été condamnés. Nous, les amoureux, nous allons vivre sans vous. Car le ciel est avec nous, les amoureux.
Et l'on retrouve Jacqueline Joubert en direct de Cannes avec Jean-Claude Pascal, éberlué d'avoir gagné cette Eurovision 1961.
C'est agréable.
Oh oui.
Quels sont vos auteurs?
Jacques Dattin et Maurice Videlin.
Nous les amoureux, c'est une chanson vengeresse.
C'est pas vengeresse, c'est pas une chanson vengeresse, c'est une chanson gentille.
Un petit peu, quand même. Hein.
Gentil, c'est pas tellement vengeur.
Moi, je trouve un petit peu. Nous, les amoureux, on est comme ça et pas autrement.
Dans ces années-là, Nous, les amoureux, interprété par Jean-Claude Pascal, est une chanson qui détonne. Pourquoi ? Réponse de Didier Varro.
Toutes les chansons, en fait, qui parlent d'homosexualité, dans les années 60, dans les années 70, sont des chansons qui mettent en scène les folles.
Un exemple avec Fernandel et la chanson « Il en est ». Nous sommes en 1968.
Savez-vous ce qu'on dit de Zizi ? On dit qu'il en est. Ce jeune homme poli est si gentil. On dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille, avec de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. Alors pourquoi que les gens font ta 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 ta, ta prout prout.
Alors c'est drôle, évidemment, ça, ça peut faire marrer parce que Fernandel est un très bon acteur et qui fait très bien la folle pour le coup. Prout, prout. Mais c'est désespérant. C'est désespérant de regarder encore aujourd'hui cette télé en noir et blanc dans cette France gaulliste corsetée qui ne projette comme image de l'homosexualité que la tata, la tarlouse, le garçon qui a le poignet cassé et qui a des super manières et qui est incapable d'être appréhendé comme aussi faisant don de sa propre virilité ou de sa propre masculinité.
Ton doigt. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique en l'air, ton doigt? Regarde un peu ton doigt.
Bah oui, alors, il se redresse tout seul.
Ah ouais.
La chanson n'a pas le monopole de la caricature des homosexuels dans les années 70. C'est idem au théâtre, puis au cinéma, avec La Cage aux Folles. La pièce fait un carton, jouée 1800 fois devant 2 millions de personnes à partir de 1973, d'abord avec Michel Serrault et Jean Poiret. Avec le succès, La Cage aux Folles est adaptée pour le cinéma et sort sur les écrans en 1978. Entre 1980 et 1998, c'est le film en langue étrangère le plus vu aux États-Unis, avec Michel Serrault toujours et Hugo Tognazzi, sous la direction d'Edouard Molinaro.
Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement, comme ça, regarde. Et le beurre, il faut l'étaler avec la même puissance. Et le thé se boit paisiblement en surveillant son petit doigt. Allez. Et d'abord, pour commencer, on se tient droit.
Non, mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend maintenant?
Ne pleurniche pas, je t'en prie, ne pleurniche pas chaque fois que je te fais une observation. C'est pour ton bien, non? Bon, viril. Hein?
Les folles, ça existe? Et quand vous commencez à vous identifier à la communauté homosexuelle, quand vous commencez à vous identifier à cette sexualité-là, vous avez aussi à dealer avec ça en disant « mais finalement, chez les PD, il y a des mecs virils, il y a des mecs entre guillemets qui sont comme le boy next door, c'est-à-dire le mec normal, même si je n'aime pas qu'on le qualifie comme ça, et puis il y a les folles, et puis il ne faut pas les stigmatiser ». Parce que finalement, les folles, ce sont celles qui ont eu le courage aussi de battre le pavé en 1969 à Stonewall. C'est pas ce qu'on va dire les bires ou les machos virils hein, qui ont pris le pavé en 1969 face aux policiers à New York, à Stonewall. Ce sont les travestis.
Pour rappel, Stonewall, c'est le nom d'un bar de Greenwich Village à New York, le Stonewall Inn, un endroit connu pour être populaire dans la communauté LGBTQ+. Dans la nuit du 28 juin 1969, la police fait une descente, mais les personnes présentes résistent. C'est le début des émeutes de Stonewall. Elles dureront 5 jours. C'est le début du militantisme LGBTQ+, aux États-Unis et partout dans le monde. En France, en 1971, Juliette Gréco chante « Les pingouins ». Beaucoup pensent que c'est un titre de plus, avec des animaux comme dans « Un petit poisson, un petit oiseau » où Gréco chantait des amours hors normes. Mais il y est bel et bien question des homosexuels. Dans leur livre « Les dessous lesbiens de la chanson », Léa Legitter et Pauline Paris précisent que Gréco interprétait cette chanson à la télé en queue de pie et chapeau haute forme, pour faire un clin d'œil aux pingouins, ceux de la banquise, et pour faire un clin d'œil aux garçons des années folles.
On voit beaucoup de pingouins et beaucoup moins de pingouines, alors que les pingouines, il n'y en a plus que de pingouins. Sans doute que les pingouins sont plus gais que les pingouines, alors que les pingouines sont tristes, on le devine. Les petits pingouins se tiennent la main de façon divine. Les petites pingouines ne soutiennent rien, non rien. Les petits pingouins boivent du bon vin dans de petits bouges. Les petites pingouines préfèrent le gros rouge.
Est-ce qu'elle est importante, cette chanson ?
Elle est importante parce qu'elle est portée par une figure qui, très vite, a pris le combat de l'émancipation des homosexuels comme un combat majeur, aussi important que celui du combat féministe. Elle les a mis vraiment au même endroit, l'un allait avec l'autre. Donc Gréco, pour tous les homosexuels dans les années 70 qui commencent à s'émanciper, qui rentrent dans le champ politique, elle incarne la grande sœur qui donne du courage et qui nous accompagne dans nos velléités de reconnaissance. Et d'ailleurs, elle fera quasiment tous les meetings, tous les rassemblements, elle sera de tous les concerts importants avant que la marche des fiertés existe. Elle est là. Et quand elle chante « Les pingouins, les pingouines », ben dans la salle, c'est l'hystérie. On sait aussi avoir un peu de recul vis-à-vis de l'image que les chansons véhiculent de nous.
Et si l'on voit de loin ces pingouins, ces pingouines, bien d'autres en sourdine gravissent nos chemins. Car chacun sait très bien que les pingouins, les pingouines, surtout s'ils se dandinent, ressemblent aux humains. Petits pingouins, petits humains, vivez comme des reines. Ce serait pas la peine de nous faire tous potins. Petits pingouins, petits humains, de façon certaine, il y a que les je t'aime qui ne trompent point.
Rebecca Manzoni, Bob & Co, sur France Inter.
Mais là, nous écoutons RTL et il est 15h.
Manny Grégoire répond à vos appels téléphoniques.
Manny Grégoire anime l'une des premières émissions interactives de l'histoire de la radio sur la sexualité. C'est Allô Manny. Le 10 mars 1971, Manny n'est pas en studio mais face au public, salle Playel à Paris, pour présenter une émission dont le sous-titre est le suivant: l'homosexualité, ce douloureux problème.
Imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, je ne sais pas, nous serions très vite par produit, enfin, je sais pas, il y a tout de même là quelque chose, il y a une norme de vie, il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. Je voudrais donner la parole à Monsieur Baudry, qu'on n'a pas encore entendu, la revue Arcadie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à Monsieur Baudry? On l'a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y.
Je voudrais surtout dire ceci. Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle qu'au paraît-il quelques 2 millions d'hommes et de femmes de France qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux. Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère. Parfaitement.
Oh là là, écoutez, Je suis un peu désolé du bruit de la salle qui ne nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné.
Plus de votre souffrance.
Oui, écoutez, alors là, je dis, qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la poule a envahi la tribune et que des homosexuels...
Liberté ! Liberté !
Le lendemain, l'émission de Ménie Grégoire fait la une des journaux. Dans un numéro de la revue Dialogue, paru en 2011, elle raconte « La salle Pleyel était pleine. Il y avait des gens jusque dans la rue. Ils s'étaient prévenus par téléphone. Cela a été, hélas, à l'origine de mouvements homosexuels. Ce n'est pas ce que je cherchais. » Après cette émission, le mois suivant, en avril, le FAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, est né. L'année suivante, 1972, Charles Aznavour chante « Comme ils disent » et il est l'invité du Grand Échiquier de Chancel. C'était un soir de septembre 1980. Chancel, donc, devant la caméra et au micro.
Je pense aussi à la chanson, et parfois certains portent la chanson comme un étendard de révolte, mais vous, vous y avez mis beaucoup dans vos chansons. Comme ils disent, c'est un chant...
C'est une chanson importante. Je pense que toute ségrégation doit être condamnée, d'une manière ou d'une autre. Alors, je crois que la chanson est un véhicule fantastique pour ça. Pourquoi toujours crier après la guerre? On ne peut pas l'arrêter. Tandis qu'on peut peut-être faire admettre certaines choses aux gens à travers la chanson.
Comme ils disent, est la première chanson française où est prononcé le mot « homo ». Si on lit le texte, c'est écrit « homme », plus loin « haut ».
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste.
Cette chanson, elle est considérée comme une chanson majeure. Oui, elle est majeure, historiquement, parce que c'est la première fois qu'on entend « Je suis un homo », comme ils disent. Oui, elle est majeure parce que c'est une chanson extrêmement bien écrite et que Aznavour l'a interprétée de façon magistrale. Mais pour moi, alors là je vais parler de moi, hein, personnellement, quand j'entends cette chanson, en 1972, je regarde mes pieds et je me dis « Ok, je suis homo, comme ils disent, et donc ma vie c'est ça. C'est forcément d'être travesti, c'est forcément être un peu décorateur, ou aller un peu coiffeur, c'est pas dans la chanson, mais c'était l'autre destin qu'on pouvait promettre aux homosexuels, et c'est forcément être amoureux d'un hétéro qui ne veut pas de vous. » Donc vous imaginez, en termes d'émancipation, quel horizon cette chanson vous promet.
À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire.
C'est une chanson qui m'a gêné vraiment toute mon adolescence et... C'est une chanson qui, effectivement, est importante pour lui, parce que je pense qu'il a à cœur d'être celui qui va en parler pour la première fois. Mais même ce truc, comme ils disent, par une grande majorité des homosexuels planqués dans les années 70, pour interroger un beau garçon dont on pouvait soupçonner qu'il était homosexuel, entre eux, ils se disaient « il est comme ça ». Et pour moi, c'est des trucs qui m'ont toujours qui m'ont fait beaucoup de mal et qui n'appartiennent pas dans mon esprit à ce mouvement de libération. Voilà, la chanson n'a pas été le territoire avec lequel les homosexuels ont pu se libérer. C'est aussi ça que ça veut dire. Et même dans les années 70, une fois ce premier stade passé avec Aznavour, il y a très très peu de chansons qui vont parler d'un autre visage de l'homosexualité, qui est le visage dominant aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore. En 1977, à la télévision française, Philippe Bouvard présente « L'huile sur le feu ». Pas une émission de cuisine, mais une émission de débat. Rien qu'avec ce titre, on comprend que la mise en scène de la polémique est un exercice télévisuel assez ancien, finalement. L'huile sur le feu, on dirait faire le buzz aujourd'hui. Et Philippe Bouvard vous détaille le programme.
L'homosexualité est-elle une tare, un fléau social, une maladie, un particularisme ou, comme certains le prétendent, plus simplement un état de grâce? Peut-on, doit-on soigner l'homosexualité? L'homosexualité présente-t-elle des dangers, non seulement pour ceux qui y sacrifient, mais encore pour les autres? Quelle est la place de l'homosexuel dans la société moderne? Tient-il le haut du pavé? Ou bien les hétérosexuels lui font-ils payer cher, très cher, de ne pas être tout à fait comme eux? Ces questions vous indiquent la nature un peu particulière du débat qui va s'engager devant vous ce soir.
En plateau, Jean-Louis Bory, écrivain, scénariste et critique, d'ailleurs on entendait sa voix sur France Inter, dans Le Masque et la Plume. Jean-Louis Bory est l'un des premiers à avoir rendu son homosexualité publique. Face à lui, le docteur Henri Amoroso, neuropsychiatre. Et la parole est à Bouvard.
Eh bien, le docteur Henri Amoroso a dit « Bory est un grand malade, enfermé dans sa névrose constitutionnelle. Se sachant incurable, il est décidé à utiliser cette infirmité naturelle à des fins publicitaires, thérapeutiques et consolatrices. » Alors, réponse de Jean-Louis Bory, vous vous sentez vraiment dépeint par cette locution?
Ah, étant donné naturellement les fonctions du docteur Amoroso, je cherche sous la table déjà la camisole de force qu'il va me mettre à la sortie, le scalpel avec lequel il va me lobotomiser un morceau du cerveau, ou, comme faisait Hitler, le triangle rose pour m'envoyer dans un camp de concentration.
Je tiens à rassurer M. Bory, étant donné l'incurabilité apparente de son cas, je pense que nous ne pourrons pas atteindre ces méthodes. Afin d'entrer dans le débat, je voudrais savoir si je dois l'appeler monsieur ou madame.
Oh, c'est amusant.
Comme c'est amusant, mais c'est opportun.
Vous prenez le débat à un niveau qui est vraiment, me laisse pantois. Puis-je vous préciser que ça ne correspond à aucune vérité physiologique, premièrement, si vous
voulez. Nous en parlerons.
Je peux vous le montrer.
Didier Varro.
On est dans la fin des années Giscard, qui sont des années où effectivement la libération qu'on avait sentie au début du mandat du président Giscard en 1974 s'est totalement refermée. On est de nouveau dans une France qui se cadenasse et on a cette montée en puissance du mouvement homosexuel qui est à peu près équivalente à celui du mouvement féministe au début des années 70.
Et en 1978, dans un opéra rock qui s'intitule Starmania, signé Michel Berger et Luc Plamondon, on entend cette chanson-ci.
Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'ai, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais.
Starmania arrive, il y a un personnage, Ziggy, alors évidemment un clin d'œil à Bowie, mais qui se pose là et qui ne fait pas secret de son homosexualité, ou en tout cas de son orientation sexuelle, et qui semble tout à fait épanoui, qui dit les choses telles qu'elles sont, son vécu. Voilà, il vend des disques dans une boutique, il aime vivre à ciel ouvert. Et donc pour moi, dans cette histoire de la chanson et de l'homosexualité, vraiment, ce personnage qui est planté, qui existe et qui ne se justifie pas, et qui n'est ni dans la solitude, ni dans le désespoir, ni dans l'outrance, ni dans le travestissement, qui peut être tout ça en même temps. Moi, il m'a fait du bien. Il m'a dit, ah, ça y est, il y a peut-être moyen de moyenner. On va peut-être pouvoir commencer à vivre, entre guillemets, pardon, normalement. Il faudra encore quelques années.
France Inter, il n'est pas encore 13h, un jour de l'année 1980.
On allait passer à table, j'ai 20 ans, et j'entends...
Jean Guidoni, je marche dans les villes.
Moi, je marche dans les villes, les banlieues, les bidonvilles, sur le pavé des ports et sur l'asphalte ville, visitant le décor des amours difficiles. Moi, je suis l'amateur d'ombre, l'explorateur des décombres, le croiseur du grand vide, l'amant de la pénombre, le flâneur intrépide aux fantasmes sans nom. Moi, je ressemble au roi mage à la poursuite d'un mirage, d'une étoile équivoque éclairant les visages des habitués des docks en quête de naufrage.
Et j'entends espèce de mec qui tout d'un coup parle de notre vécu qui est aussi la drague dans les villes, partout, dans les gares, dans les faubourgs, dans les endroits reculés, un peu dangereux, mais qui le vit de façon fière, en bombant le torse. Je marche dans les villes, il y a du mouvement dans cette chanson. Il y a aussi un peu de tragédie. Donc lui, il intègre tous ces éléments-là, et pour moi, cette chanson-là, elle est un marqueur décisif sur ce qu'on va vivre dans les années suivantes.
Et puis...
La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était un mec... Qui me l'a dit.
Je suis désolé de le dire, et ô combien encore plus Rebecca aujourd'hui, mais Francis Lalanne, la plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est un mec qui me l'a dit.
Il m'a regardé simplement, avec des yeux qui regardent vraiment. Pas de sourire et pas de yad, pas de cinéma et pas d'oubade. Il m'a dit ça comme quand c'est vrai. Mec, tu me l'as dit.
Francis Lalanne, dont on ne pouvait pas soupçonner qu'il soit autre chose qu'hétérosexuel, en parlant de son point de vue qui n'était pas sur la sexualité mais sur l'amour d'un homme pour un autre homme, avec finalement cette mise en abîme du doute et du trouble que l'amour de l'autre manifestait comme ça, la plus belle fois que l'on m'a dit je t'aime, c'est un mec qui me l'a dit. C'est une chanson quand même qui a son importance dans l'histoire de l'émancipation de l'homosexualité.
Nous vivons ensemble un moment décisif.
Nous sommes le 10 mai 1981, autour de 20h. Étienne Moujotte et Jean-Pierre Elkabbach ne sont pas au mieux. Ils présentent la soirée électorale dans un décor marron.
Dans quelques secondes, effectivement...
25 secondes.
Soyons à l'heure. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République.
5, 4, 3, 2, 1.
François Mitterrand est élu président de la République.
Nous répétons donc, estimation C2I et Welbull, monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valérie Giscard d'Estaing, 48,3%.
Le mois précédent, le 4 avril 1981, la première Gay Pride, la première Marche des Fiertés a lieu en France. Ça se passe entre la place Maubert et le centre Pompidou, à Paris.
J'étais venu à Paris pour cette marche, et c'était un truc. On ne peut pas imaginer ce que ça a été. En 80, l'homosexualité est encore pénalisée, hein. D'aller marcher dans la rue en disant « gay, 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 nous sommes fiers d'être gays » ou « nous sommes tous pédés » ou « nationalisons les usines à paillettes » pour nos copines travesties. On était presque 10 000. mais c'était un moment de vertige. Et il y avait des chansons de Gréco, il y avait des chansons de Dalida, il y avait Spacer de Sheila. Voilà, toutes ces chansons étaient aussi la BO de cette marche des fiertés. Et c'est un moment très important.
Un an plus tard...
Attention.
Salut les PD.
La radio Fréquence Gay a l'autorisation d'émettre.
Au 10e étage d'un immeuble du 20e arrondissement, Fréquence Gay, une radio qui s'adresse à la communauté homosexuelle de l'Île-de-France. Plus de 100 bénévoles, souvent des chômeurs, qui travaillent permettant à la station d'émettre 24 heures sur 24.
Est-ce qu'il va être à la hauteur, tu vois ?
Ah, je sais pas. Faut que tu lui fasses signe. Attention, attention. Stop.
Salut les PD.
Ah, ça fait du bien.
Cette année-là, 1982, le groupe Taxi Girl chante « Chercher le garçon ». Et le 4 août 1982, la loi qui décriminalise l'homosexualité est promulguée.
Alors évidemment, il y avait eu Bowie, il y avait eu Elton John. Mais en France, non. La culture un peu juvée, allez. Un peu le Ziggy de Starmania. Mais là, tout d'un coup, voilà, l'homosexualité aussi bascule dans la pop culture française.
Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Comment la chanson française a parlé d'homosexualité et de genre depuis les années 50, c'est Pop & Co ce matin.
Allô ?
Voici Léa Le Jitter, co-autrice avec Pauline Paris des Dessous lesbiens de la chanson paru chez X Éditions. À elles deux, elles ont revisité une cinquantaine de chansons qui évoquent l'amour des femmes pour les femmes. On y trouve Dorothée, avec sa chanson « Naturellement », Brigitte Fontaine, Juliette Armanet et cette chanson-ci. Peut-être que vous l'avez reconnu, c'est « Comme un ouragan » par Stéphanie de Monaco. Nous sommes en 1986 et désormais, les chansons ne peuvent plus se passer de clips vidéo. Dans celui-ci, Stéphanie de Monaco apparaît en robe, comme toutes les princesses, quand soudain, elle bascule dans un autre univers et devient femme d'action, un James Bond au féminin. Tout au long du clip, elle est poursuivie par un personnage à chapeau et la fin, c'est Léa Le Jitter qui vous la raconte.
Et au final, elle se rend compte que c'est son double en version masculine. Elle a les cheveux courts et elle a un look très butch, on va dire. Et ensuite, quand elle interprète cette chanson sur les plateaux, elle a toujours une veste en cuir, des chemises. Elle est vraiment dans un look lesbien assez affiché. Et ça dénote vraiment par rapport à toutes les autres chanteuses de l'époque. Et donc, vraiment, quand on a interviewé, puisque notre livre, quand même, part à chaque fois de témoignages, on a pu voir que c'était vraiment, une génération un peu avant nous, hein, mais c'était vraiment devenu un hymne lesbien en boîte et que les lesbiennes s'étaient appropriées cette chanson par rapport à la culture visuelle autour. Mais aussi les paroles, finalement, peuvent être interprétées comme C'est pas simplement un petit coup de foudre. Tout est renversé, tout est bouleversé. Le sol s'ouvre sous nos pieds. Donc, à mon avis, ça a fait écho à beaucoup de lesbiennes par rapport au moment où on se rend compte, justement, qu'on a une orientation sexuelle différente, etc. C'est un incendie, c'est plus juste un amour orienté vers une personne, c'est toute son identité qui est bouleversée.
En 1986, Catherine Lara est l'invitée de l'émission « Mon Zénith à moi » présentée par Michel Denisot sur Canal+. À la question « Quelle est la première chose que vous regardez chez un homme ?», Catherine Lara répond « Sa femme ». 6 ans plus tard, Thierry Ardisson lui reparle de ce moment dans l'émission « Le bar de la plage » sur Antenne 2.
Donc maintenant, enfin, je veux dire, c'est pas grave, mais tu avoues que tu aimes bien les femmes, quoi.
J'aime bien les êtres.
Ouais.
Mais je crois qu'il faut pas se cacher, il faut pas avoir de tabou, il faut
oui.
pas...
Mais...
Il y a aucune frontière dans ma... ni dans ma sensualité, ni dans mes amours.
Et au début, ça t'a culpabilisé? Tu disais...
Jamais.
C'est pas... Non.
Mais du tout.
Tu t'es jamais dit, c'est bizarre, je suis attiré par les femmes?
Oh, non.
Non.
Non, parce que j'ai toujours aimé ce qui était un peu interdit.
Ouais.
Et que c'était le côté belle aventure.
Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, alors? Je veux
aujourd'hui.
Dire, tu fréquentes des hommes, des femmes ou seulement des femmes?
Il est vrai qu'il y a des gens à qui je fais la cour et d'autres à qui je fais le jardin.
Léa Le Jeter.
C'est à la fois très important et en même temps, elle l'avait déjà fait quelques années avant et personne n'avait réagi, en fait. C'est ça qui est difficile. Même des chanteuses qui ont pris des risques de dire libre d'aimer une femme ou un homme, ça n'avait pas eu tant d'écho que ça dans les médias. Il y a eu quand même pendant des années un silence assourdissant des médias, même quand les chanteuses prenaient des risques, en fait.
Comme si on se bouchait les oreilles.
Exactement. Cette phrase... récurrente dans les papiers ou à la télévision ou dans les interviews de « c'est une célibataire endurcie », des portraits qui commencent comme ça dans plusieurs articles qu'on a relevés. Mais certaines chanteuses en ont fait justement une force et de dire « on peut vivre sans hommes, sans dépendre des hommes, ni financièrement, ni amoureusement ». Finalement, retourner le stigmate de la célibataire pour dire « j'ai pas besoin des hommes pour faire ma vie ».
En 1983, sur l'album de Catherine Lara intitulé « La roqueuse de diamants » figure cette chanson. Autonome.
Longtemps j'ai mis de l'eau dans mon vin. Longtemps j'ai pris la vie comme elle vient. Longtemps j'ai pensé ce que pensaient les autres. Longtemps j'ai vécu comme si j'étais une autre. Jusqu'au jour où autonome, oh autonome, libre d'aimer une femme ou un homme. Autonome, oh autonome, libre de vivre seul.
La décennie 80, c'est aussi les années Sida. Barbara, qui écrit la chanson « Si d'amour à mort » et en reverse tous les droits à l'association Solancy. Dans leur livre « Les dessous lesbiens de la chanson », Léa Le Jeter et Pauline Paris précisent que Barbara fut de tous les combats aux côtés d'Act Up, qu'elle distribuait des préservatifs pendant ses tournées et qu'elle avait fait installer chez elle une ligne téléphonique réservée aux malades des hôpitaux qui pouvaient la joindre jour et nuit. La communauté homosexuelle décimée, la chanson francophone évoquera peu le sujet pendant les années 90. Le dernier titre qui a marqué cette époque-là, c'est le tube du groupe espagnol Mecano, numéro 1 au top 50, pendant plusieurs semaines en 1991.
C'est un moment extrêmement important parce que ça parle, c'est une des premières chansons aussi qui va parler de la lesbophobie, de dire que de toute façon ça va pas les empêcher de continuer de vivre leur vie. Donc ça je pense que c'est une étape supplémentaire, c'est pas juste une déclaration d'amour, c'est aussi un panorama sociétal.
1999, le Pax est voté. 2013.
La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Le 23 avril 2013. La loi du mariage pour tous est adoptée et Christiane Taubira s'adresse aux députés.
La responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations.
C'est une exigence du pacte républicain. Et lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun ainsi que les plus belles institutions de la République. Nous voulons dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays qui ont été blessés, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous.
À partir des années 2010, ça n'est plus seulement l'homosexualité qui est évoquée en chanson, mais la question du genre. Indochine avec Troisième Sexe, Mylène Farmer avec Sans Contrefaçon avaient déjà fait des tubes au milieu des années 80 en remettant en cause les injonctions liées au féminin et au masculin. En 2014, Christine and the Queens enfonce le clou et à sa suite, la fluidité entre les genres est devenue un des sujets dominants de la chanson francophone.
Normalement, c'est bon.
Voici Claire Pommet, dite Pomme, qui fut consacrée artiste féminine de l'année 2021 aux Victoires de la Musique.
Bah moi, j'ai jamais assumé publiquement mon homosexualité. En fait, c'est les médias qui m'ont forcée à dire, à parler de ma vie privée, en fait, parce que je suis jamais allée dans une interview en disant voilà, moi, j'aime les filles, je suis bi ou je suis lesbienne. J'ai jamais fait ça. On m'a toujours demandé de le dire, mais on m'a demandé de le dire parce que j'écrivais des chansons d'amour lesbienne et que du coup on me disait donc toi du coup t'es lesbienne et mais même enfin tous ces termes là en fait c'est vrai que au bout d'un moment ça peut être un peu fatigant parce que à la fois c'est très important et à la fois c'est encore une manière de stigmatiser les gens et de rappeler aux gens que bah ils sont pas hétéros et que donc ils sont pas dans la norme et c'est vrai que moi j'ai hâte quand même du jour où je pouvais juste pouvoir chanter mes chansons sans qu'on me demande de parler de mon orientation sexuelle qui finalement concerne très peu de gens, quoi.
Quelle est la chanson qui aurait vraiment compté pour vous dans ce registre, dans ce domaine ?
Peut-être, alors c'est peut-être pas l'idéal comme réponse, mais c'est quand même un peu la réalité, ce serait peut-être I Kissed a Girl de Katy Perry parce que j'étais jeune. C'était la première fois de ma vie, je crois, que j'entendais en chanson, une histoire homosexuelle. Je pense que c'était Katy Perry. Après, il y a eu Eddie Depreto aussi, il y a quelques années, quand il a sorti son premier album, qui a beaucoup parlé de genre et de sexualité et d'homosexualité. Et ça, c'était assez marquant parce que c'était la première fois que quelqu'un de mon âge, peut-être, en parlait. Donc, il y a eu deux premières fois, je dirais. Donc, ça provoque un sentiment d'appartenance. En tout cas, dans mon cas, ça a été beaucoup ça. Et c'est vrai, ce truc de se sentir appartenir à quelque chose qui existe déjà, plutôt que d'avoir l'impression qu'on est seul dans son bateau, quoi. Limite, ça a pu me révéler, en fait, d'écouter ces chansons-là. Je m'identifiais à des chansons sans savoir que c'était pas moi, en fait. Et on peut s'identifier, je crois, enfin j'espère qu'il y a des gens qui s'identifient dans mes chansons, qu'ils soient lesbiennes, gays ou hétéros ou bi, quoi.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité, abusive. Virilité.
Suite au mouvement MeToo, la question du genre comme de l'orientation sexuelle est surtout prise en charge par les filles aujourd'hui. Christine and the Queens, Angèle ou Oshi. Au printemps 2021, Eddie Depréteau a été confrontée à du harcèlement homophobe sur les réseaux sociaux pour avoir donné un concert à l'église Saint-Eustache. Il y a interprété sa chanson « À quoi bon ?» où il pointe du doigt l'intolérance de l'église vis-à-vis des homosexuels. Les réseaux sociaux, lieu de déchaînement de haine et aussi de solidarité. Léa Le Jeter.
Je pense qu'on est à un moment donné aussi où il y a de nouveau un réseau qui se constitue. Ça me fait un petit peu penser finalement aux années folles où il y avait ce réseau de cabaret avec voilà, Yvonne George, Agnès Capri, qui faisaient débuter de nouvelles chanteuses, etc. Et ça permettait en fait aux chanteuses interlopes, homosexuelles, bisexuelles de pouvoir s'exprimer. Et là, peut-être c'est plus via les réseaux sociaux aussi, les labels. Quand je pense à des labels comme Fracas, Tomboy Lab, qui soutiennent en tous les cas des chanteuses et des chanteurs qui bouleversent les codes du genre. Je sais pas, quand je pense à Angèle, où elles se retweetent, elles se soutiennent aussi sur les réseaux. Donc peut-être les chanteuses osent plus, mais ça veut pas dire qu'il y a plus de lesbophobie aujourd'hui. Il faut encore montrer énormément de courage pour pouvoir parler d'homosexualité aujourd'hui dans la chanson. Donc...
Vous l'avez entendu en version parlée dans cet épisode de Pop & Co. La voici en version chantée et en duo, c'est Pomme, pour ce morceau où elle est invitée par Oclou, et le titre, c'est Gaylord.
C'est ce que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes s'embrouillent, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout.
Merci à Didier Varro pour ses éclairages sur les chansons qu'on vous a fait écouter. Je vous rappelle le titre du livre de Léa Le Jeter et de Pauline Paris. C'est « Les dessous lesbiens de la chanson » avec des illustrations de Gilly Fedel. Il a paru chez X Éditions. Et je vous signale aussi « Homo, année clandestine », une série en 5 volets publiée par le journal Le Monde en janvier dernier et consultable en ligne. Koyen Guyen a réalisé Pop & Co avec Fabrice Desmaz et Laurent Baudouin ce matin. Ilinka Negulesco assure la documentation, le casting et les trouvailles sonores de l'émission. Jean-Baptiste Audibert aiguille la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co et Björk, puis Claude Nougaro, puis le groupe IAM dans les semaines qui viennent. À samedi. Après les infos, vous retrouvez le grand face-à-face d'Ali Badou avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein.